Bonjour, commandant Mohamed Bida.
Bonjour.
Je ne sais pas si je dois vous appeler commandant tout le long. Je sais que vous êtes très modeste, très humble, malgré l'acte héroïque que vous avez réalisé en 2021 à Kaboul. Commandant ?
Commandant, vous l'appelez commandant.
Commandant.
Ou Mohamed, si vous voulez, ça ne me dérange pas.
Vous êtes donc commandant divisionnaire de la police française et vous étiez en poste à Kaboul de 2016 à 2021. 2021, il commence à avoir des prises de position des talibans. Tout d'un coup, cinq États, je crois que ce sont des États ou des districts, voilà, tombent en main des talibans. Il en reste sur 34, c'est terrible. Vous anticipez, vous dites, il faut qu'on évacue les ressortissants français d'une part et les Afghans et les Afghanes qui se sont impliqués pour nous d'autre part. Vous commencez à planifier avec l'armée américaine. Vous pouvez nous en parler ?
Alors, l'évacuation qu'on organise, nous, côté français, elle commence au mois de janvier 2021. Parce qu'avec l'ambassadeur, David Martinon, on sait que ça ne va pas se passer aussi bien que tout le monde le prétendait à l'époque.
Donc, vous essuyez des critiques, d'ailleurs.
On est très critiqués parce qu'on a évacué nos personnels afghans à partir du printemps 2021, leurs familles, mais aussi des personnes qui avaient travaillé de près ou de loin avec la France, dans l'armée, pour l'armée française quand elle était présente en Afghanistan, mais aussi ceux qui ont travaillé pour les services culturels, les enseignants du lycée français. Donc toutes ces personnes, on leur a offert l'opportunité de quitter le pays avant que les talibans ne reviennent au pouvoir. Mais pour nous, cette échéance, elle était très loin. Parce que, bon, effectivement, les talibans ont signé un accord avec les Américains, un accord de retrait, qui devait effectivement permettre une transition pacifique, à condition que le gouvernement afghan et les talibans s'entendent sur un partenariat, ce que les talibans refusaient. Ils ne voulaient absolument pas discuter avec le président qui était en poste à l'époque. Et donc c'était un préalable, c'était le départ de ce chef d'État pour pouvoir entamer des négociations et organiser un gouvernement de transition. Mais les deux positions ne se sont jamais réellement rencontrées. Et malgré tout, les talibans ont accepté le report du retrait qui était prévu le 1er mai 2021, selon l'accord du 29 février, les accords de Doha. Et ont repoussé et ont cessé leurs attentats terroristes très meurtriers, puisque c'est la population civile qui en souffrait le plus, tout en maintenant quand même des assassinats ciblés de dirigeants, de journalistes. Donc on avait une situation qui était très calme à partir du mois de mai jusqu'au mois de juillet, à tel point qu'on nous a dit « voilà, vous avez crié au loup ». Alors qu'il ne se passe rien, résultat des courses, l'ambassade de France ne peut plus fonctionner. On n'a plus de personnel, puisque tout le monde était parti. Et qu'il allait falloir fermer l'ambassade, dès que les Américains partiront, et prendre l'initiative de la rouvrir d'ici la fin de l'année 2021. Donc ça, c'était le discours qu'on entendait à Paris. Et des reproches qui étaient faits, évidemment, par son administration, notre ambassadeur, à qui on a dit « voilà, vous êtes trompé ». Mais très rapidement, les choses ont évolué parce qu'on a vu les talibans mettre en place une stratégie de conquête des provinces, notamment le nord de l'Afghanistan. Le nord, pourquoi ? Parce que l'Alliance du Nord du commandant Massoud, qui était donc frontalière avec le Tadjikistan, l'Ouzbékistan, donc des seigneurs de guerre très puissants, capables de mobiliser des milices de 30 000 hommes, qui avaient déferlé sur Kaboul en 2001, qui avaient chassé les talibans. Donc cette stratégie visait à les bloquer, a empêché justement ces milices de pouvoir gagner Kaboul. Mais en réalité, les talibans ne se sont pas contentés de bloquer ces artères et ces voies d'accès à la capitale. Ils ont aussi pris possession des provinces du Nord, chassant les leaders de ces provinces, qui étaient des hauts dignitaires afghans, donc qui ont pris la fuite, tout comme le président afghan qui a pris la fuite dès le 15 août. Et donc les talibans ont récupéré des provinces très très rapidement, sans pratiquement combattre. Il y a eu très peu de combats. Et sont arrivés à Kaboul sans quasiment échanger de coups de feu avec l'armée afghane, qui, je le rappelle, comptait 500 000 hommes, des blindés, des avions de chasse. Alors que les talibans, tout au plus, pouvaient compter sur 50 000 combattants. Donc le rapport de force était largement en faveur du gouvernement afghan, qui avait la capacité à contenir les attaques talibanes. C'est pour ça que dans notre esprit, les combats à Kaboul n'arriveraient pas avant 6 mois, voire un an, d'autant plus qu'on n'était pas très loin de l'automne et la trêve hivernale, puisque la trêve hivernale des combats commence en octobre en Afghanistan, et on a les offensives de printemps. C'est le rituel que j'ai connu moi pendant 5 ans, qui débute en général fin mars. Donc on n'était pas très loin de la trêve hivernale qui aurait empêché les talibans de progresser vers Kaboul dans les 6 mois. Mais très rapidement, l'armée s'est délitée. les effectifs ont déserté, ont abandonné leur poste. Pour certains, ont fui vers les pays voisins. Et c'est donc sans combattre que les talibans ont pu rejoindre Kaboul le plus rapidement possible. Donc, moi, j'ai été alerté. Enfin, à partir du 12 août, on savait que Kaboul allait être la prochaine cible. Donc, dès le 12 août, les Américains décident d'évacuer ses ressortissants sur l'aéroport, ainsi que leur ambassadeur. Ils demandent aux autres ambassades de faire de même, si on souhaitait être évacué par les moyens américains. C'est ce qu'ont fait toutes les ambassades, sauf la France, parce que même si on avait déjà évacué bon nombre de nos personnels afghans, il restait quand même des ressortissants français présents dans la capitale, qui, comme beaucoup, pensaient que les événements se dérouleraient de façon pacifique. Et cette arrivée aussi rapide des talibans a semé un vent de panique dans toute la capitale, créant un chaos indescriptible dans les rues, puisque les rues étaient congestionnées, les voitures ne pouvaient plus circuler, et les gens affluaient vers la zone diplomatique pour demander...
La Green Zone,
pour demander la protection des ambassades, sauf que toutes les ambassades étaient fermées, sauf celle de la France, qui était encore ouverte, parce qu'on attendait nos ressortissants. Donc l'ambassadeur, lui, avait été évacué vers midi le 15 août. Et quand il part pour l'ambassade et prendre son hélicoptère, il me laisse les clés de l'ambassade. Il me dit « Bon, je vous confie le soin de récupérer les ressortissants français et on se retrouve tout à l'heure. » Tout à l'heure, c'est-à-dire dans 2-3 heures. Et en réalité, ça sera 2-3 jours plus tard. Mmh. Et en réalité, on a été surpris par l'ampleur de la panique qui a saisi les Afghans. Et ce qu'on n'avait pas mesuré, c'est que ces Afghans qui se trouvaient maintenant dans la Green Zone afflueraient vers la seule ambassade qui était encore ouverte, donc l'ambassade de France.
Vous décrivez des scènes d'apocalypse. Des
scènes apocalyptiques, parce qu'on avait sur nos téléphones, on voyait bien sur les réseaux sociaux des images qui nous parvenaient, mais un chaos indescriptible, des scènes de violence, des gens qui marchaient sur les toits des voitures pour essayer de rejoindre tout le monde, fuyaient vers l'aéroport en réalité. Et on verra nos capacités à prendre la route, d'ailleurs, parce qu'on s'est dit, bon, les routes sont impraticables. Il nous restait que la seule solution des hélicoptères. Sauf que l'hélicoptère qui devait venir nous chercher en fin d'après-midi, et on le voit dans le ciel, hein, je suis en train de discuter avec mon collègue, quand on regarde, on entend les bruits des hélicoptères qui s'approchent, on les voit faire leur manœuvre au-dessus de l'ambassade de France pour aller se poser dans l'enceinte de l'ambassade américaine, qui n'est pas très loin. Et là, ils sont obligés de tirer. Rafale de Kalachnikov, et on voit bien les balles traçantes, les airs de ciel, et les leurres des hélicoptères qui jettent des leurres pour diriger les balles hors cible. Et les hélicoptères font demi-tour, évidemment, parce qu'on ne pouvait pas prendre le risque de voir un hélicoptère américain abattu. Alors on a pensé que c'était des éléments incontrôlés, parce que là, les talibans prenaient un risque majeur d'abattre un hélicoptère américain. C'était une provocation que les Américains auraient sanctionnée de la plus ferme des réactions. Et donc ces hélicoptères ont fait demi-tour. Donc il y a eu un moment de discussion à l'aéroport entre l'ambassadeur américain et notre ambassadeur pour amorcer un nouveau projet d'évacuation par hélicoptère. Mais entre-temps, cette foule qui s'est agglutinée devant l'ambassade de France a fait l'objet de violences, alors des détonations, des explosions. Aujourd'hui encore, on ne sait pas ce qui s'est passé réellement. Toujours est-il que les gens étaient agglutinés sur ce portail, écrasés. Donc moi, je vais sur les écrans de surveillance, la vision de femmes avec des nourrissons dans les bras qui étaient écrasés sur le portail blindé qui pèse plusieurs tonnes. Et j'imaginais le pire. Je me suis dit, ces gens vont mourir étouffés, écrasés par la foule qui était en panique totale. Donc j'ai appelé l'ambassadeur de France, qui était à l'aéroport. Je lui ai expliqué la situation et rapidement, la décision a été prise d'ouvrir le portail et d'accueillir ces personnes. Donc, ils étaient près de 500. On a fait entrer dans l'ambassade de France. Avec moult précautions, puisque on ne sait pas à qui on a affaire, on sait qu'il y a des gens qui sont effectivement dans la terreur, ils sont terrorisés par ce qui se passe en ville, mais en même temps, on a la crainte aussi d'avoir des éléments infiltrés qui peuvent rentrer dans l'ambassade de France. Et en même temps, on se disait que si les talibans voulaient lancer un assaut sur l'ambassade de France, on n'aurait pas résisté longtemps, puisqu'on n'avait plus de moyens, on était très faiblement armés. Et 11 policiers contre une centaine de combattants talibans, on n'aurait pas...
Et très peu de vivres.
Alors, on avait, effectivement, dans notre anticipation, dans notre planification, on avait anticipé, effectivement, qu'on serait, peut-être pendant un certain temps, coupé de la ville, s'il y avait eu des combats entre talibans et le gouvernement afghan. Donc on avait entreposé des vivres. On avait des rations militaires, un stock pour tenir 15 jours, mais pour 30 personnes.
Pas pour 500.
Pas pour 500, donc très rapidement les vivres se sont amenuisées. On avait des bébés qui manquaient de lait infantile. On avait des personnes qui étaient malades, qui sont arrivées souffrantes au sein de l'ambassade, d'autres qui étaient blessées, non pas par balles, mais par des jets de pierre, par des chutes, qu'on a dû prendre en charge aussi au sein de l'ambassade. Donc on a monté, à la hâte et dans l'urgence, un camp de réfugiés au sein même de l'ambassade de France, tout en ayant l'esprit que, voilà, on ne savait pas à qui on avait affaire, donc il y a eu tout un travail d'identification, de profilage, même de voir à qui on avait affaire. Bon, beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants, les trois quarts c'était des femmes et des enfants, donc de ce côté-là, on était plus ou moins rassurés. Mais les hommes qui restaient étaient quand même des gens qu'il fallait qu'on surveille. Donc ça a été une situation compliquée, mais la zone où on vivait, donc le camp Jefferson, le camp Lafayette, comme on l'a appelé nous par la suite, était une zone composée de trois zones hermétiques les unes des autres. Ce qui nous a permis de cantonner des gens. Au fur et à mesure, on déplaçait des gens, une fois qu'on avait acquis la certitude qu'ils ne présentaient pas de danger. Et on a surtout exposé au minimum des effectifs de police. On était 11, donc seuls 2 ou 3 personnes, policiers, étaient dans les zones où il y avait ces personnes qui n'étaient pas identifiées.
Commandant Mohamed Bida, après, vous dites la seule solution, puisque les Américains, leurs hélicoptères se sont fait tirer dessus, c'est la route. Mais il y a déjà plein de checkpoints, dont un devant l'ambassade. Vous pensez à les négocier avec un des responsables talibans ?
Alors, la difficulté, c'est qu'on avait accueilli des Afghans. Et les Afghans n'avaient pas vocation à quitter leur pays. C'était le discours qui était tenu par les talibans. C'était un discours que le porte-parole des talibans avait tenu sur les réseaux sociaux. Et moi-même, quand je prends la décision de négocier avec le chef du checkpoint qui est un taliban pour faire amener des bus et transporter tous ces gens à l'aéroport, j'ai cette incertitude aussi de savoir, de ne pas être sûr d'avoir le bon interlocuteur. Qui plus est, bon, l'ambassadeur me suit dans ce raisonnement parce qu'il voit bien qu'au niveau des Américains, malgré tous les scénarios qui ont été imaginés avec un nouveau transport en hélicoptère, seulement les hélicoptères transportent 50 personnes maximum, on est 500 dans l'ambassade. Donc ça veut dire 10 rotations. Mais est venu s'ajouter un autre problème, c'est que les Américains refusaient d'embarquer des Afghans dans leurs hélicoptères. Donc la négociation entre l'ambassadeur français et l'ambassadeur américain a été assez tendue, puisque bon, l'ambassadeur américain refusait de transporter des Afghans. Et quand il s'est agi de venir nous évacuer, donc l'opération a pu se mener. Mais finalement, les Américains se sont ravisés face au danger qui était prégnant quand même dans la capitale. La crainte de voir à nouveau des hélicoptères se faire tirer dessus par des éléments incontrôlés, même si, je dirais, l'aile politique des talibans avait donné des gages et des garanties aux Américains à Doha, on ne pouvait pas être sûr que les éléments incontrôlés qui étaient présents à Kaboul, les combattants, ne s'en prennent pas aux aéronefs américains. Donc les Américains ont décidé de suspendre et d'annuler, en fin de compte, toutes les opérations héliportées. Donc un autre scénario a été imaginé, un transport en bus blindé avec des Américains, mais là c'est pareil, les Américains ont refusé ce transport parce que ça exposait des soldats américains et surtout ils n'avaient pas la capacité de transporter autant de monde. Donc rapidement, s'est imposé à moi la nécessité d'organiser un convoi avec des bus dont je connaissais l'existence, puisque ça faisait 5 ans que j'étais à Kaboul, que je gravitais dans cet environnement. Donc il n'y a pas de société de location de bus, évidemment, mais il y a des chauffeurs individuels qu'on peut contacter par téléphone. Et c'est ce que j'ai demandé donc aux gens qu'on a accueillis, de contacter des chauffeurs de bus et de voir avec eux s'il y avait moyen d'organiser un convoi, de trouver un leader qui allait organiser ce convoi et de le mettre en rapport avec moi. Et c'est ce qui s'est passé. Mais une fois ce travail effectué, il fallait qu'on ait l'assurance de pouvoir quitter l'ambassade en toute sécurité. Sachant que les talibans ont vu d'un très mauvais œil l'accueil de femmes afghanes au sein de l'ambassade, à tel point qu'on m'a demandé de faire sortir les femmes de l'ambassade. Donc c'était une pierre d'achoppement parce que le taliban qui a exigé de moi, donc c'était pas le chef du checkpoint, c'était un de ses supérieurs, on s'est affronté verbalement pendant près de 15 minutes devant le portail de l'ambassade. Il menaçait de s'en prendre à l'ambassade de France, mais bon, on lui a rappelé quand même les règles que s'était engagé à respecter les talibans. Donc la représentation diplomatique française était un territoire français, donc personne ne pouvait y entrer d'une part. Et d'autre part, toutes les personnes qui étaient à l'intérieur, qui avaient demandé notre hospitalité et notre protection, étaient sous la protection de la France dorénavant. Donc c'est un discours qui est très très mal passé, évidemment. Mais c'est à travers d'autres interlocuteurs afghans, des responsables plus importants, que j'ai eu l'occasion de contacter. Et là, on est dans une strate vraiment très élevée, puisque c'est un haut dignitaire afghan, enfin taliban, qui fait partie de l'équipe des négociateurs et qui est à Doha, et avec qui on entre en contact à l'intermédiaire des Afghans, des trois Afghans qu'on a exfiltrés dans des coffres, dans nos coffres, qui étaient des agents des services secrets afghans, qui étaient très recherchés par les talibans. Et par leur intermédiaire, on a pu nouer un contact avec ce haut dirigeant qui nous a dépêché un émissaire, qui était vraisemblablement le plus grand responsable de la zone à ce moment-là. Et c'est avec cette négociation et ce jeu de poker, menteur, puisque c'est un peu comme ça que j'ai vécu les événements, avec des interlocuteurs différents de qui j'ai obtenu des garanties différentes les uns des autres, interlocuteurs qui ne communiquaient pas entre eux, donc ça a été aussi une stratégie de savoir qu'ils ne communiquaient pas entre eux. Et c'est ce qui nous a permis de sortir donc, de l'ambassade le soir du 17 août et de pouvoir regagner l'aéroport et d'amener toutes ces personnes à bon port avant de découvrir la situation de l'aéroport qui était encore plus catastrophique.
Commandant, on doit malheureusement vous quitter.